Voilà, tout à l'heure, je parlais des charismes. Là, on vient de chanter en langue. Ce que vous avez entendu après le chant qu'on a chanté à l'Esprit, ça s'appelle le chant en langue. Voilà. Donc, si vous vivez dans l'Esprit Saint, si vous laissez guider par l'Esprit Saint, ben, n'hésitez pas à essayer de chanter en langue. Moi, j'ai commencé à chanter en langue à 25 ans. Certains savent qu'à ce moment-là, à 25 ans, j'ai fait une expérience où j'ai vu le ciel s'ouvrir au-dessus de moi. Et ensuite, quelques temps après, ma langue s'est mise à bouger. Le Seigneur voulait que je chante en langue, mais comme j'y croyais pas, je fermais ma bouche pour qu'aucun son ne sorte. Vous voyez, un peu comme Saint-Pierre, la transfiguration, il est un peu paumé. Quand il y a des manifestations de Dieu, on est un peu paumé. Donc on fait n'importe quoi. Mais ma langue a quand même bougé toute seule, et comme ça, le Seigneur m'a dit qu'il me donnait le chant en langue. Alors maintenant, quand je chante en langue, c'est moi qui veux le chanter, bien sûr, c'est pas automatique. Mais le Seigneur m'a montré comme ça qu'il voulait que je chante en langue. Donc si vous-même vous vous sentez poussé à chanter en langue, n'hésitez pas à le faire. Et je peux vous dire qu'il y en a un qui n'est pas content quand vous chantez en langue, c'est le démon. Parce que l'exorciste ancien de Rome, dont un mort, et je crois maintenant il est très âgé, il n'exerce plus, il raconte dans un de ses livres qu'une fois, eh bien, il avait amené quelqu'un, il essayait d'exorciser quelqu'un, ça ne marchait pas, le démon ne voulait pas partir. Il n'arrivait pas à le faire sortir de la personne. Et donc, il a amené cette personne dans un groupe de prière. Ils ont commencé à chanter en langue dans le groupe de prière, bon, comme ça. Et à travers cette personne, le démon a dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me fouette !» Et il a quitté cette personne. Donc, vous voyez que le chant en langue, on fait ça aussi pour que les démons, voilà, qui peut-être vous collent à la peau, ben, s'en aillent. Comme ça, on est tranquille ce soir entre nous, on peut prier le Seigneur, tranquillement. Puis les autres, ils attendent dehors. Alors, ce soir, nous allons méditer le psaume 1. Donc le psaume 1, c'est le premier psaume du livre des psaumes, comme son numéro l'indique. C'est le psaume 1. C'est le psaume qui ouvre le livre des psaumes. Donc si vous regardez le livre des psaumes, aujourd'hui ils sont numérotés de 1 à 150 dans les traductions catholiques, eh bien vous verrez que plus on va en avance vers les derniers psaumes, plus on est dans la louange. Donc prière des psaumes, les chants des psaumes, ce sont des prières et des chants, parce que à la base, c'est fait pour être chanté, eh bien, qui nous aident à aller vers le Seigneur. C'est tout un chemin pour aller vers le Seigneur et donc aussi vers la louange. Quand on est vraiment dans le Seigneur, on est dans la louange. Quand on est dans la louange, on est dans le Seigneur. Voilà. Donc nous allons méditer ce psaume 1, parce que dans la foi, même quand on pense être très avancé, mais bon, je ne sais pas qui pense être très avancé, eh bien, il faut toujours reprendre au commencement les choses pour être sûr qu'on n'a rien oublié du départ. Il faut toujours repartir au départ pour retrouver cette force du premier psaume. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Alors, ce psaume, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il commence par un mot « heureux ». Donc tout le livre des psaumes commence par le mot « heureux ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu désire notre bonheur. Le premier mot que Dieu nous adresse à travers le livre des psaumes, c'est « heureux ». Il désire notre bonheur, mais notre bonheur, c'est à nous de l'accueillir. C'est pas à nous de le construire, je dirais, mais c'est à nous de l'accueillir, parce que c'est un don de Dieu. Heureux. Et pour nous dire qu'il faut aller vers le bonheur, le psalmiste, celui qui a fait ce psaume, qui a écrit ce psaume, certains psaumes ont été écrit par David, mais d'autres par d'autres auteurs. Celui qui a écrit ce psaume, il commence par dire quelle est la route du malheur à éviter. Autrement dit, pour aller vers le bonheur, eh bien, faut sortir déjà d'une route du malheur, qui est parfois la nôtre. Et quelles sont les routes du malheur, d'après ce psalmiste? Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. C'est assez mystérieux, qu'est-ce que c'est? Les méchants, ils tiennent conseil entre eux. Vous avez peut-être remarqué que parfois, quand vous discutez avec des personnes, peut-être vous-même, hein, pas que les gens sont plus méchants que nous, et nous moins méchants que les autres, mais parfois, dans ces discussions, il y a des propos très négatifs. Dans la discussion, on tape sur un tel, on tape sur une telle, on dit je ne sais pas quoi, ceci, ça devrait être comme ça. C'est comme tout le monde a des frustrations. On sort ces frustrations dans la discussion, donc on sort beaucoup de propos négatifs. Et bien ça, le Seigneur, il appelle ça le conseil des méchants. Il faut essayer de sortir du conseil des méchants. Ça veut dire quand vous sentez que dans une discussion, ça tourne au vinaigre, c'est-à-dire qu'on est en train de lyncher dans la parole quelqu'un, même sous le mode de l'humour, quittez cette discussion. Voilà, vous n'êtes pas obligé de partir, vous vous taisez, voilà, vous laissez les autres s'exprimer s'ils veulent, mais vous ne continuez pas plus loin dans cette discussion, c'est la voie du malheur. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai remarqué dans ma vie propre, quand je porte un jugement sur quelqu'un dans ma tête, eh ben, très rapidement, le Seigneur me montre, à travers quelque chose qui m'arrive, que je ne suis pas meilleur que cette personne. Donc quand je porte jugement sur quelqu'un, je suis en train de me lier moi-même au malheur. Parce que je sors de la bonté, je sors de la bienveillance. Donc je suis en train de me lier, sans m'en apercevoir, au malheur. C'est ce que nous dit le psalmiste. Heureux, donc, celui qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Alors on peut l'interpréter différemment, cette parole. Une parole de Dieu, ça a beaucoup d'interprétations différentes. Moi, je vous propose l'interprétation suivante. Le chemin des pécheurs, ça veut dire « je fais ça, mais je fais comme tout le monde ». Vous voyez, par exemple, je suis dans une entreprise, je ne sais pas quoi, chacun se sert de stylo, bon, ce n'est pas grave de prendre des stylos. Eh ben, je fais comme tout le monde. Vous voyez, moi, je prends un stylo, les autres prennent un stylo, je le ramène chez moi, je fais comme tout le monde. Ce n'est pas facile de ne pas faire comme tout le monde. Vous voyez, dans Paris, par exemple, ne pas traverser quand il ne faut pas traverser, c'est difficile. Hein. Moi-même, j'y succombe très souvent. Voilà. Ben c'est ça, s'arrêter au chemin des pécheurs, c'est dire je fais ça, mais de toute façon, je fais comme tout le monde, donc c'est pas grave. Ben oui, mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas sur la bonne voie. C'est pas la majorité qui est sur la bonne voie. Donc moi, je dois accepter de faire un petit sacrifice pour ne pas faire précisément comme tout le monde, parce que ce que font tout le monde, c'est souvent pas la bonne solution pour être heureux. Alors ça demande aussi une prise de conscience, parce que comme tout le monde fait comme ça, ben, c'est difficile de penser que c'est pas bien, évidemment. Heureux celui qui ne fait pas comme tout le monde. Par exemple, il y en a qui vous diront ben moi je suis pas fidèle à ma femme, je suis pas fidèle à mon mari, mais tout le monde fait ça. De toute façon, maintenant, il y a des sites pour aller faire ce qu'on veut. Ben, je fais comme tout le monde, vous voyez. Eh ben non, le Seigneur nous dit ne fais pas comme tout le monde, justement. C'est pas bien de faire ça, tu vas être malheureux, tu construis ton malheur. Alors, ne siège pas avec ceux qui ricanent. Voilà, ceux qui ricanent, c'est ceux qui méprisent les autres. Est-ce que dans mon cœur, je m'estime supérieur aux autres ? Vous savez que le très grand danger de celui qui est spirituel, qui prie, le très grand danger, c'est Jésus nous prévient, il y a un danger. Quand vous mettez à prier, il y a un danger. Pour dire, ben, prier, c'est vachement important. Ben oui, c'est hyper important. Mais il y a quand même un danger à prier. C'est qu'ensuite, on se dit, mais moi, je prie, elle ne prie pas, donc je suis au-dessus. Et ça, c'est le grand danger de celui qui prie. Et c'est très bien de prier, et il faut prier, mais il faut, quand on prie, quand on rentre dans la vie spirituelle, il ne faut pas se considérer comme supérieur aux autres. Hein ? Il faut au contraire se considérer comme inférieur, même si les autres disent du bien de vous. Rappelez-vous, il y a peut-être vous rappelez cette histoire, il y a un centurion romain qui vient voir, non, qui justement ne va pas voir Jésus parce qu'il se juge indigne d'aller le voir, il envoie les anciens du peuple juif aller le voir, et les anciens disent à Jésus, voilà, il te demande une guérison pour son esclave, il est digne que son esclave soit guéri, c'est ce que je vous disais la dernière fois, hein, si vous vous rappelez un petit peu, si vous étiez là, et lui, il envoie des gens dire au Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Donc tout le monde dit qu'il est très digne, parce que cet homme fait du bien, mais lui, il sait qu'il y a un danger à être orgueilleux, donc il dit, moi, je suis indigne. Quelqu'un qui avance dans la spiritualité, il se juge indigne. Il se juge pas digne. Les autres le jugent digne parce qu'ils voient qu'il fait du bien, mais lui se juge indigne. Ne pas se mettre au-dessus des autres, ne pas ricaner, même sous la forme de blagues. On peut faire beaucoup de mal en ricanant. Mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Ça veut dire que pour trouver le bonheur, eh bien, il faut méditer la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut connaître la Bible par cœur, mais ça veut dire qu'il y a des paroles de Dieu qui doivent habiter notre cœur, elles vont le transformer, elles vont l'ouvrir. Donc n'hésitez pas évidemment à lire la Bible, mais quand il y a une parole qui vous touche, n'hésitez pas à l'écrire et à la marquer en grand chez vous, bon, si c'est possible, si votre mari ou votre femme ne veut pas voir la parole de Dieu dans l'appartement, c'est compliqué, mais mettez-la dans votre carnet, prenez-la. prenez-la et méditez-la et gardez-la. Et elle va vous apporter le bonheur. Pas en 30 secondes, parce qu'on est dans une société où tout doit arriver dans 30 secondes. Peut-être que ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais à un moment donné, vous allez sentir que vous êtes dans la paix du Seigneur et plus personne ne pourra vous enlever votre paix, même si dans votre vie, il y aura encore des épreuves. Cet homme qui médite la parole de Dieu, qui vit en présence de Dieu tout au long du jour, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Voilà, là on vient de vivre une grande sécheresse en France. Ben, les arbres qui étaient près des ruisseaux, ils avaient du bol, parce qu'ils pouvaient continuer de s'abreuver auprès des ruisseaux, d'accord ? Mais le psalmiste dit qui donne du fruit en son temps. Le fruit ne vient pas forcément tout de suite. Ce psaume est ce qu'on appelle un psaume sapientiel, c'est un psaume de sagesse. Or la sagesse, c'est de savoir qu'il faut du temps pour arriver à faire des choses. En Afrique, on dit beaucoup que les anciens sont sages. Nous, en France, on oubliait que les anciens étaient supposés être sages. Peut-être qu'ils ne le sont pas, j'en sais rien. Mais en Afrique, on reconnaît que les anciens sont sages. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accumulé de l'expérience. Et cette expérience leur donne de la sagesse. Et donc, ils produisent du fruit en temps. En leur temps, cette sagesse, elle leur vient avec les âges. Il faut attendre d'atteindre les âges élevés pour avoir cette sagesse de l'expérience. Ils donnent du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Alors là, il faut bien comprendre. Parce qu'il y a parfois des chrétiens qui disent « Si tu mets ta foi en Dieu, tu vas gagner des millions. Hein, » ça existe, hein, pas mal, ça existe beaucoup aux États-Unis, ça. « Tu mets ta foi en Dieu, tu vas gagner des millions, c'est le jackpot. Dieu, il va t'arroser d'argent si tu crois en lui. Voilà. » Ben non. Non, tout ce qu'il entreprend réussira, ce n'est pas ses affaires terrestres qui vont forcément réussir. Pas forcément. Ce qu'il va entreprendre dans l'ordre de la foi, oui, il va obtenir la vie éternelle, parce que c'est ça le but de la vie. Ce n'est pas de gagner des millions. Mais c'est d'obtenir la vie éternelle. Voilà. Maintenant, Dieu va aussi t'aider dans ta vie concrète, mais parfois, tu auras quand même des échecs, parce que Dieu met à l'épreuve ta patience. Tel n'est pas le sort des méchants, ils sont comme la paille balayée par le vent. Vous voyez la paille qui est balayée par le vent. J'ai écouté un témoignage récemment, d'une personne qui ne connaissait pas du tout Dieu, et qui a découvert Dieu en rencontrant son futur mari. Elle n'avait jamais entendu parler de Dieu. Et après coup, cette personne, elle raconte... Moi, je n'avais jamais entendu parler de Dieu, je n'avais aucun enracinement, aucun repère. Je pouvais faire n'importe quoi, et d'ailleurs, je me demandais pourquoi les gens ne faisaient pas n'importe quoi, parce que de toute façon, après, on meurt, donc on s'en fout. Donc, je faisais n'importe quoi, je volais, je faisais tout ce que je voulais. Et je ne comprenais pas que les autres ne faisaient pas comme moi, parce que de toute façon, après, on meurt. Donc, elle était comme balayée par le vent, vous voyez. Aucun enracinement. Quand on croit en Dieu, on s'enracine en Dieu. On a des racines, on a des repères. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas. Alors, les méchants, qui c'est les méchants ? Parce qu'on est tous un peu parfois méchants. Les méchants, parce que le pape lui-même dit qu'il est un pécheur. Quand il y a un jésuite qui a demandé au pape, au début de son pontificat, « Que dites-vous de vous-même ? » Et le pape a répondu, « Je suis un pécheur, pardonné. Je suis un pécheur, pardonné. » Voilà. Donc, quand on est pécheur pardonné pour la Bible, on est injuste. Même si on a fait des bêtises, des péchés, on est entré dans le pardon de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Le méchant dans la Bible, c'est celui qui ne veut pas ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. D'accord ? Le juste, ce n'est pas celui qui n'a fait aucun péché, ça n'existe pas des gens qui ont fait aucun péché. C'est celui qui se confie à Dieu, qui demande à Dieu de l'aider à avancer. Le méchant, c'est celui qui ne veut pas ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. Eh bien, au moment où il va mourir, celui-là, même si Dieu veut pour lui l'amour, il ne veut toujours pas ouvrir son cœur. Eh bien, il ira en enfer, non pas que Dieu le mette en enfer, mais lui-même s'enferme dans son cœur, il ne veut pas d'amour. Donc, il se construit son propre enfer, et Dieu n'y peut rien. Mais Dieu connaît le chemin des justes qui iront au rassemblement des justes, c'est le ciel, et c'est ce que nous espérons pour chacun d'entre nous. Voilà, alors maintenant, je vais vous donner quelques témoignages de guérison. La semaine dernière, c'était Francis qui était venu nous témoigner elle-même, et puis il y avait ce très beau témoignage d'Anna que nous avons entendu. Là, je vais vous donner le témoignage de Béatrice et Philippe. Cet été, il y a eu une prière des malades à Paray-le-Monial. Il y en a peut-être parmi vous qui y sont allés. Et bien, au cours de cette prière, il y a eu des guérisons, et notamment cette guérison de Béatrice. Donc, bonjour Père, c'est avec une grande joie que je vous annonce la guérison de mon épouse, Béatrice, et de son syndrome de, alors là, je ne sais pas si je prononce bien, Gougerot-Srodon. Elle n'était pas présente à Paray-le-Monial au cours de la prière des malades, j'étais venu moi-même avec des photos. On n'a pas besoin forcément d'amener des photos, mais il a amené des photos de son épouse. En effet, il s'agit d'une maladie orpheline, peu connue, relativement invalidante, mais surtout atrocement douloureuse. Son corps brûlait intérieurement et elle en souffrait depuis 10 ans, au point de vouloir mettre fin à ses jours. Et le seul moyen de la calmer était de faire des perfusions en ambulatoire toute la journée, de kétanine, c'est un produit anesthésiant très puissant, et ce une fois tous les 2 mois. Et puis en plus, elle avait un traitement de neuroleptique tous les jours qui la mettait dans un état second. Pour information, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'existe pas de traitement pour guérir cette pathologie. 2 mois ont passé, et par moments, les douleurs reviennent, mais avec un acte de foi, cela disparaît immédiatement. Je traduis ce qu'il veut dire. 2 mois ont passé, elle ne souffre plus, mais par moments, les douleurs reviennent, et avec un acte de foi, cela disparaît immédiatement. Donc parfois, ça remonte, ces douleurs, elle pose un acte de foi en Jésus-Christ, ça disparaît immédiatement. Et vous avez eu la parole de connaissance suivante, enfin quelqu'un de l'équipe. Le Seigneur guérit une personne qui brûle dans son corps. Voilà. Et bien depuis qu'il y a eu cette parole, elle ne brûle plus dans son corps de cette maladie invalidante, le Goujon-Schrödon, qui lui brûlait le corps depuis 10 ans. Et donc Philippe et Béatrice terminent par « Nous rendons grâce à Dieu et nous lui confions tous les autres membres de notre famille. » Voilà. Merci pour ce témoignage de Béatrice et de Philippe, et merci Seigneur pour cette guérison. Alors, Anne est venue nous témoigner qu'elle avait la sensation d'un ver dans son dos depuis 1 an. Au mois de novembre 2018, ici à Saint-Nicolas, une parole a annoncé la guérison d'une personne ayant la sensation d'avoir un ver dans son dos. Depuis cette parole, Anne n'a plus aucune sensation d'avoir un ver dans son dos. Gabriel est venu prier à Saint-Nicolas-des-Champs à partir de fin octobre 2018. Le 14 février 2019, une parole annonçait que le Seigneur donnait à une femme la force de pardonner à son mari, car elle refusait de le faire jusqu'à présent. La parole disait aussi que Jésus était en train de la visiter. Gabriel, à ce moment-là, a ressenti une aiguille triturant son cœur quand le Saint-Sacrement, c'est-à-dire Jésus lui-même présent parmi nous, s'est approché d'elle, et suite à cette parole, la douleur qui triturait son cœur a cessé. Elle a eu la force alors de pardonner à son mari, qui la manipulait de manière perverse, même si aujourd'hui ils sont séparés, car la vie ensemble avec son mari, qui est extrêmement pervers, est impossible. Mais au moins, elle lui a pardonné, c'est ce que le Seigneur lui demandait. Merci Seigneur. Marie-Pia avait une grosseur au sein. Elle avait très peur que cela soit cancéreux. Elle est venue à la prière des malades le jeudi 14 février 2019. Depuis, elle n'a plus mal et la grosseur a totalement disparu. Et le dernier témoignage que je vais donner ce soir, c'est un témoignage d'une personne que j'ai rencontrée cet été pendant les vacances, qui était venue à la Saint-Nicolas-des-Champs à la prière des malades. Donc Catherine, quand elle a appris qu'elle avait un cancer, eh bien, elle n'est pas venue prier pour elle, pourtant elle a un cancer grave. Elle est venue prier pour sa fille, afin que sa fille ait le courage d'accepter sa maladie, car elle savait que pour sa fille, ça serait insupportable de savoir que sa mère avait un cancer. Elle n'a pas dit à sa fille qu'elle était venue prier pour elle. Et quelques temps après, elle reçoit un message de sa fille qui lui dit qu'elle a pas mal pleuré quand elle a appris que sa maman avait un cancer, mais qu'à un moment donné, elle s'est sentie envahie par une grande force qui a dit, écrit sa fille dans son message, venait de sa maman, mais sa maman sait aussi que ça vient de Jésus, puisqu'elle avait fait cette prière. Donc rendons grâce à Dieu, parce que la force dans la maladie, ou la force pour ceux qui sont avec nous, c'est aussi un don de Dieu que nous pouvons demander. Voilà, nous allons arrêter maintenant les témoignages, puisqu'il est temps que le Seigneur lui-même vienne parmi nous pour venir nous donner sa force, nous guérir et nous consoler.